Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile de la chronique sur la ligne de touche de Marilyn.
6
avant minuit. 6
heures avant minuit.
Pour cette première chronique de la saison, j'avais cette envie de parler de l'engagement, un terme un peu vidé de son sens ces dernières années. Bienvenue dans Sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. On commence avec l'actualité du week-end passé. Si vous m'aviez écouté l'année dernière dans cette même émission, vous savez que je suis une très grande fan de football. En Ligue 1 et Ligue 2, les joueurs ont retiré leur nom pour porter le prénom d'une victime de discrimination raciale, sexiste, homophobe ou encore antisémite. Le slogan « 34 prénoms, 34 histoires, une même réalité » porté par la LFP en collaboration avec des associations telles que Her Game 2, la LICRA et Foot Ensemble. Une démarche qui veut mettre au centre les récits des victimes et qui met fin aux journées dédiées à chaque cause, comme on a pu le connaître ces dernières années. Ainsi que les polémiques autour des récalcitrants à s'en tenir une lutte, notamment celle contre l'homophobie. Alors que l'initiative de la campagne est à saluer et à encourager, car elle incarne les victimes de discrimination, j'émets quelques réserves. En vérité, derrière cette volonté d'universalisme, il y a une forme de nivellement. Les violences subies par les femmes, les personnes non blanches, les LGBTQIA+, les musulmans et les personnes handicapées ne se vivent pas de la même manière, ni avec la même intensité. Et c'est là que la pensée intersectionnelle manque. Les discriminations ne se valent pas, notamment parce qu'elles se croisent et se renforcent. Que dire également de la situation de la section féminine de Dijon ? Elle semble partie pour payer les pots cassés d'une mauvaise gestion d'un club. Pourtant cinquième de la D1 Arkema, la plus haute ligue de football féminin en France, elles ne sont pourtant pas assurées de jouer cette même ligue l'année prochaine. Cette situation a poussé les capitaines à prendre la parole via la voix de leur syndicat avec une tribune cinglante rappelant que la signature de la convention collective qui pourrait protéger les actrices du foot français n'avance pas depuis 3 ans. Et oui, on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais pas trop. C'est dans ce contexte que le Havre a fait un choix clair, refuser le flocage national et choisir de porter le logo de la Maison des Femmes du Havre sur ses maillots. Ici, pas de catalogue symbolique des causes, pas de volonté d'embrasser toutes les discriminations en une seule image. Jean-Michel Roussier, président du club, explique que les joueurs ne sont pas des porte-parole d'opérations individuelles et que ces actions doivent être liées à des structures concrètes ancrées dans le territoire. Face à une LFP qui démultiplie les messages nationaux dans une logique d'universalisme moral, cette position peut apparaître comme une manière de reprendre la main sur le sens de l'engagement. Assez parlé de football, on a tout de même accueilli les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, le sport étant la grande cause nationale cette année-là. Une parenthèse enchantée qui devait laisser un héritage fort. Les médailles ont brillé à l'Arc de Triomphe, mais qui écoute les revendications de ces athlètes ? Rézi Bantou, ex-basketteuse professionnelle qui accompagne désormais les entreprises dans la définition et le déploiement de leur stratégie RSE-RH au travers des valeurs du sport, nous en parle.
On est capable en fait collectivement de les célébrer comme des héros, de célébrer les athlètes comme des héros. Mais dans le même temps, leur parole reste parfois limitée ou contestée dès lors qu'elles sortent du cadre sportif.
Le fameux « joue et tais-toi », cette injonction classique, en gros « t'as dans le ballon, pas dans la société », est encore très présente actuellement. Dès qu'un athlète prend la parole. Sauf qu'avant de devenir des sportives et sportifs adulés, ces athlètes n'en restent pas moins des citoyens comme vous et moi. Certes, avec une caisse de résonance plus forte, mais quand même, on ne devrait pas leur retirer le droit de s'exprimer et d'être engagé. Mais d'ailleurs, être engagé, c'est quoi au final ?
Et être engagé, ce n'est pas seulement représenter une cause ou donner, c'est incarner un sujet, s'y inscrire dans le temps, et parfois créer des solutions concrètes. Et je trouvais qu'il était intéressant de donner des exemples, notamment en France, avec Pauline Desroulettes, qui est une joueuse paralympique en tennis fauteuil, qui en est un excellent exemple. Après son accident en 2018, elle s'engage fortement pour la sécurité routière. Elle ne s'est pas juste arrêtée à la sensibilisation, elle a contribué à porter des propositions concrètes dans le débat public, notamment autour de la lutte contre les comportements à risque au volant. Un autre engagement aussi qui a été très marquant, qui est celui de Sarah Abitbol en 2020. Elle brise un silence majeur en révélant les violences sexuelles qu'elle a subies dans le patinage artistique. Son témoignage provoque une onde de choc dans le sport français et contribue à libérer justement la parole sur ces sujets. Et dans la continuité, elle a mis en place une association avec, qui s'appelle La Voix de Sarah pour accompagner les victimes et faire évoluer les mentalités avec des répercussions jusque dans les discussions politiques.
Un grand merci à Rézi qui nous a partagé son expertise sur l'engagement dans le sport. C'était Sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. À bientôt.
Merci Marilyn pour cette chronique sur la ligne de touche, la chronique qui s'arrête là où les matchs ne figurent plus au classement sur ce que le sport dit du monde et ce que le monde fait au sport. Et elle vous a laissé avec ces deux questions. Est-on prêt à laisser le sport déranger, protester, exiger, plutôt que de lui demander de se contenter d'un simple décor de vertu? Et est-ce qu'on est prêt à reconnaître les athlètes comme acteurs sociétaux à part entière, pas juste des performateurs?
Quelle heure est-il?
6 heures.
Minuit, pourquoi?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
Bravo. 6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique sur la ligne de touche de Marilyn. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la prise de parole des footballeurs. Mais en France, dès qu'un joueur sort du terrain pour entrer dans le débat public, sa parole devient immédiatement politique.
Bienvenue dans Sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit de monde et sur ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, l'actualité nous rappelle une chose simple. En France, le football n'est jamais seulement du football, et il ne l'a jamais été. Je veux que vous en ayez la certitude à la fin de cette chronique que le football a toujours été politique. Quand Kylian Mbappé dit qu'un sportif ne peut pas se taire face au monde, c'est un peu comme une montre cassée qui indique la bonne heure de...
Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir, et... On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays.
D'une, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, donc je ne comprends pas l'étonnement autour de sa prise de parole. Et de deux, il n'a pas tort, encore une fois, même si le timing et le reflet dans le miroir est un peu floué.
Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas.
Il y a des messages qui sont...
Contrairement à la prise de position, par exemple, de Aurélien Tchouaméni.
Je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter, il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation.
Certes, il a eu cette position en 2024, mais il reste un être humain. Et en France, un citoyen comme les autres. C'est un discours que je tiens depuis l'âge de 12 ans et régulièrement sur mon compte Twitter, quitte à en devenir relou. Oui, les footballeurs peuvent parler, même si ça ne nous plaît pas. Par exemple, j'ai un gardien dans mon équipe qui a liké des posts du RN, Lucas Chevalier. Je ne l'apprécie pas, mais il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais je l'apprécie quand même pas. Mbappé est presque un syndicaliste qui s'ignore. Oui, c'est un peu choquant ce que je dis, mais un joueur capable de défier la Fédération Française de Football sur la question des droits d'image, le PSG sur un combat juridique individuel, ses prises de position restent encore marquées quand même par l'opportunité et la stratégie personnelle. Là où quelqu'un comme Eugène Jo Léa, dans un autre contexte, a véritablement incarné la figure du joueur syndicaliste engagé pour l'ensemble de la profession. Pour Mbappé, la vraie suite serait peut-être de cesser d'être l'exception qui gagne sa bataille seule et de pleinement assumer ce rôle collectif que un de ses compatriotes a déjà esquissé. Je parlerai aujourd'hui du cas du football masculin dans cette chronique, car les vedettes d'aujourd'hui n'ont pas suivi les traces de leurs aînés, tels que Juste Fontaine ou encore, comme je le disais, un certain Camerounais, Eugène Jo Léa, qui a eu l'idée de créer un syndicat en 1961 pour porter un combat en faveur des droits des joueurs, à l'époque où les présidents des clubs étaient tout-puissants. L'UNFP est né. J'ai une pensée également à ceux qui ont élargi mai 68 au football. Eh oui, on a souvent tendance à penser que les footballeurs sont apolitiques, qu'ils ne font que jouer, mais c'est l'état de l'industrie actuelle qui les pousse à être comme ça, ou bien aussi parce qu'ils sont souvent transfus de classe. Ils ont aussi eu leur mouvement de grève du 22 au 27 mai 68, deux mois après le déclenchement du mouvement étudiant. Pendant 5 jours, en mai 68 donc, des joueurs prennent d'assaut le siège de la Fédération Française de Football à l'appel du comité d'action des footballeurs. qui brandit une banderole simple, le football aux footballeurs. Et une autre, la fédération, propriété des 60 000 footballeurs. Le siège de la Fédération française de football a été occupé par un groupe de joueurs contestataires, majoritairement d'après l'historien du football Alfred Wald, qui appartenait à des clubs amateurs de la région parisienne. Derrière ce geste un peu fou, il y a une vraie revendication politique et syndicale. Dénoncer le régime du contrat à vie, et dénoncer le fait que les joueurs soient traités comme des esclaves d'un club et réclamer un droit à la parole dans un système qu'ils n'ont pas construit. Ces épisodes peu connus montrent que le football français a toujours été traversé par des luttes sociales et que la grève des Bleus à Nice-Nah en 2010 n'est ni une première ni un scandale absolu, mais la réapparition d'un conflit bien plus ancien, celui des joueurs contre les structures qui contrôlent leur corps, leur image et leur parole. Quand des joueurs de l'équipe de France prennent position contre l'extrême droite, ou quand on reparle de Zidane, de Thuram ou de Nice-Nah, c'est toujours la même question qui revient. Que peut dire un footballeur et à quel prix ? Déjà pour commencer, on va se mettre tous d'accord sur un point. Le football français n'est pas submergé par l'immigration comme le dit Zemmour. Mais l'immigration est la partenaire originelle de l'équipe de France, à partir de 1904, grâce à la loi de 1889, qui inscrit le droit du sol dans la législation. Cette information, je l'ai apprise en lisant le livre « Une histoire des Bleus en crampons » de François Darocha Carnero, qui nous apprend également que les premiers immigrés étaient surtout des immigrés belges ou encore italiens. Dans ce même livre, l'auteur pose une question que je me suis toujours posée. Au nom de quoi les footballeurs n'auraient pas eux aussi le droit de faire grève ? Parce qu'en réalité, depuis 20 ans, on demande aux joueurs français à la fois d'être exemplaires et de rester à leur place. Exemplaires quand ils gagnent, silencieux quand ils pensent, dociles quand ils contestent. Et dès qu'ils sortent du cadre, le procès commence. C'est là qu'il faut revenir à Nice-Nah. En 2010, la grève des Bleus pendant la Coupe du Monde n'a pas seulement été traitée comme un conflit interne, elle a été transformée en affaire d'État, en crise morale et en honte nationale. Un petit rappel des faits, le 20 juin 2010, les joueurs de l'équipe de France décident de ne pas s'entraîner pour protester contre l'exclusion de Nicolas Anelka. Mais c'est surtout la une de l'équipe du 19 juin 2010 attribuant à Anelka une insulte précise qui est fausse, transformant un conflit interne en grève symbolique en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que une partie du récit médiatique et politique avait déjà préparé le terrain, avec comme moment de bascule les manifestations de 2005 où les banlieues deviennent un problème d'ordre public, notamment avec l'affaire Ziad Ebouna et le discours sécuritaire de Sarkozy en fil rouge. Depuis, les stéréotypes sur les jeunes issus de l'immigration et venant de la banlieue, le football français servait donc de miroir aux angoisses françaises. Et dans ce cadre, les joueurs de 2010 ont été lus non comme des salariés en conflit, mais comme des corps suspects, des voix trop visibles, des enfants ingrats de la République. C'est là que la figure de Lilian Thuram est intéressante. Parce qu'avant même Nice-Nah lui répondait déjà à Sarkozy, en rappelant que les jeunes des quartiers n'étaient pas des racailles, mais des citoyens à part entière. Et pourtant, quelques années plus tard, il condamnera la grève des Bleus au nom de la responsabilité morale du maillot. Cela dit, quelque chose de puissant, dans le football, la parole politique est toujours autorisée à condition de servir l'ordre établi. Alors la vraie question n'est peut-être pas les joueurs doivent-ils parler. La vraie question c'est qui accepte leur parole et quand. Quand elle conforte le récit national, elle devient exemplaire. Quand elle dérange, elle devient scandale. Et c'est peut-être ça, le vrai sens de Nice-Nah, de Thuram, de Mbappé et même de Zidane. Le football français est un champ politique à part entière. Un espace où se rejouent les rapports de classe, de race, d'autorité et de représentation. Bref, un endroit où le monde s'invite dans le sport et où le sport renvoie au monde ses propres tensions.
Et à l'approche du mondial, une question s'impose. Est-ce qu'on regarde encore le football pour ce qu'il est ou pour tout ce qu'il révèle de nos peurs, de nos rapports de force et de nos contradictions ? Marilyn y répondra dans la prochaine émission de J'irai cracher sur vos ondes, l'émission littéraire de Syllabe, le lundi 25 mai prochain.
6 heures avant minuit.
Elle nous avait déjà parlé dissolution des groupes ultra dans sa chronique du 26 mars 2025. On retrouve Marilyn pour un nouvel épisode de Sur la ligne de touche, la chronique qui s'arrête là où les matchs ne figurent plus au classement, sur ce que le sport dit du monde et ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, elle décrypte pour vous l'actualité autour des mouvements de supporters, hooligans ou ultras, souvent confondus, ils ont pourtant une histoire différente, des organisations et des dynamiques différentes entre apolitisme de façade, résistance antifasciste et répression étatique. 3 minutes pour comprendre ce qui se joue dans nos stades et ce qui se joue à travers eux.
Entre apolitisme de façade, résistance antifasciste et répression étatique, que se passe-t-il en France dans le mouvement des supporters et supportrices ? Que reste-t-il de l'esprit ultra ? Bienvenue dans, sur la ligne de touche, la chronique au-delà des scores qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et sur ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, encore une focale sur le football, mais cette fois-ci sur les acteurs en tribune. Avant de parler des événements récents concernant les hooligans de Nice, il faut dissiper toute confusion. Oui, j'ai bien dit hooligans et non ultra. Parce que dans le débat public, les médias prennent plaisir à mélanger les deux. Pourquoi ? J'ai ma petite idée, mais je vous laisserai faire la vôtre après ce point historique. Déjà, il faut savoir que le mouvement ultra il est né en Italie, dans les années 60-70, selon les sources, dans un climat politique et social tendu. D'après le blog Mini Ultra Livre Sonore, je cite, « Les premiers groupes, tels que les Fedayin, Brigate Rossonere et Tupamaros, mon italien est rouillé, ils s'organisent autour des clubs majeurs et ils implantent des rituels spécifiques dans les stades, tifos, chants, banderoles. Il faut aussi noter que l'influence des mouvements ouvriers et contestataires se fait sentir, forgeant l'identité des ultras, car ils privilégient la passion et l'organisation collective plutôt que la violence pure. Ouais, la violence pure, c'est ce qu'il y a du côté des hooligans. Contrairement aux ultras qui sont attachés à leur club, les hooligans, eux, se focalisent majoritairement autour de la violence. D'accord. Donc là, je vais citer le sociologue spécialiste des supporters de football, Ludovic Lestrelin, qui dit que le hooliganisme englobe un ensemble de phénomènes qui ont pour point commun de se dérouler en lien avec un événement sportif, en particulier les matchs de football, et qui touchent à des formes de violence physique ou verbale, mais aussi à des actes de délinquance. Donc c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc en France, le thème s'est répandu suite au drame de Uzel. Donc il y a eu 39 morts et c'est dû en fait au départ des violences des supporters anglais qui s'appelaient à l'époque des hooligans. Et donc ce terme, il a été associé aux violences des supporters. Et en France du coup ? Alors en France, donc Street Press et l'équipe se sont associés pour réaliser une cartographie des groupes hooligans. Ils ont totalisé 19 groupes en activité pour 16 clubs différents qui vont de la première division à la cinquième. Donc la première division c'est la Ligue 1 et la cinquième c'est le National 3. Ce qui me pousse à vous parler de ça aujourd'hui et de clarifier la distinction entre ultra et hooligan, c'est ce qui s'est passé à la veille de la finale de Coupe de France remportée par le RC Lens contre l'OGC Nice. En effet, il y a eu une rixe entre guillemets entre supporters. C'est ce que les médias ont dit. Street Press a enquêté et a révélé que ce n'était pas une rixe de supporters, mais bien une descente d'une milice d'extrême droite affiliée au club de foot de Nice. Ils ont crié « on va casser du noir, on va casser de l'arabe ». Donc on voit bien que c'était motivé par la haine raciale et ils arboraient certains des symboles nazis. Des signaux que l'on peut voir aussi arborer au sein des tribunes lyonnaises. D'ailleurs, elles avaient rendu hommage à Quentin Derenck, le militant nationaliste. La question reste tout entière. Quelle tribune voulons-nous en France ? Parce que dans les gradins comme dans la rue, l'apolitisme n'existe pas, car il y a toujours un choix. Et ce choix a un prix. Les interdictions de stade, les punitions collectives, des tribunes muselées, des dissolutions de groupes, ou encore la gentrification des stades qui amène à l'exclusion des classes populaires. Est-ce que les groupes se revendiquant du mouvement ultra vont honorer cette mémoire et cette histoire ? Nous le saurons bientôt. À l'approche des présidentielles, ils devront forcément prendre parole.
En écho à cette chronique, on peut mentionner le déchaînement de violence qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai près du canal Saint-Martin à Paris. 65 personnes ont été interpellées. Il y a eu 6 blessés, dont un grave. Merci Marilyn.
6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
On passe à la chronique, sur la ligne de touche aujourd'hui, chronique sportive qui va au-delà du jeu. Aujourd'hui, Marilyn revient sur un sujet crucial, la LGBTQI+ phobie dans le sport, avec un focus sur le football alors que la Coupe du Monde 2026 bat son plein. Entre le pionnier Justin Fashanu, les rapports de la FIFA Pro, les figures comme Borja Iglesias et Olivier Rouillet en France et la controverse du Pride Match Égypte-Iran, 3 minutes pour comprendre ce combat qui dépasse les terrains.
Bienvenue dans Sous la ligne de touche, la chronique qui s'arrête sur ce que le sport dit du monde et ce que le monde fait au sport. Aujourd'hui, on parle d'un sujet lourd, la LGBTQI-phobie dans le sport. Et on commence par le football, alors sous les projecteurs de la Coupe du Monde 2026. Parce que quand le monde regarde le mondial, il devrait aussi voir qui peut jouer en paix et qui doit encore se cacher. On doit commencer par se souvenir de Justin Fashanu, qui en 90 devient le premier footballeur professionnel au monde à faire son coming out gay. Mais son audace lui a coûté très cher. Son entraîneur, Brian Clough, qui l'a fait venir pour le montant record, n'en veut plus. Et d'ailleurs, il l'humilie dans le vestiaire. Dans le livre « Les rebelles du football », Bernard Morlineau rappelle cet épisode. Je cite « Si tu veux du pain, tu vas chez le boulanger. Si tu veux une côte d'agneau, tu vas chez le boucher. Alors pourquoi vas-tu dans des boîtes de tapettes ?» Donc l'attaquant a duré une suite d'insultes et il a été isolé par ses coéquipiers et même son frère. Ça, on l'avait vu dans un documentaire, mais qui n'est plus disponible sur Netflix, qui montre la violence que c'était à l'époque. Les supporters lui ont aussi manifesté leur hostilité en public. En 98, après des accusations d'agression sexuelle, charge abandonnée par manque de preuves, Justin Fashanu se suicide à 37 ans. Il reste le seul footballeur anglais à avoir fait son coming out jusqu'à Jack Daniels en 2022. Du côté des figures contemporaines, Borja Iglesias, qui est un international espagnol qui joue en ce moment le mondial aux États-Unis, attaquant du Real Betis, a protagonisé une campagne contre l'homophobie en Espagne en juin 2023. Il dénonce le tabou autour de l'orientation sexuelle au football. Et en mars 2026, dans une interview à l'équipe, face aux insultes homophobes parce qu'il porte les ongles peints, il déclare « Ce qui me dérange, c'est qu'une personne gay ait peur de faire son coming out à cause de ce genre de réaction. Ne pas pouvoir être soi-même est inacceptable. Je serais bien plus heureux d'être gay que d'être comme eux, plein de haine. » Et comme je disais, actuellement, il est une des figures en fait des footballeurs qui prennent position. Et donc, je parlais du mondial. Le mondial a apporté une controverse majeure par rapport à cette thématique, la FIFA a désigné le match Égypte-Iran du 26 juin 2026 à Seattle comme premier Pride match, donc un match où on mettrait en valeur la défense des personnes qui vivent de l'homophobie. Cette décision a fait polémique parce que en Iran et en Égypte, l'homosexualité est punie par la loi, elle est criminalisée. Et donc, ce qui fait tâche, c'est que, et on dirait que c'est un peu du pinkwashing, parce que la FIFA n'applique pas ses principes de respect aux droits humains partout, comme on a pu le voir sur les différentes polémiques qu'il y a pu avoir autour des visas. Cette montée de l'hostilité envers les personnes LGBTQIA+, va de pair avec celle du sexisme et du masculinisme. Le masculinisme dessine l'ensemble des revendications cherchant à promouvoir le droit des hommes au détriment de ceux des femmes, donc c'est anti-femme. Jackson Irvine, joueur australien, a déclaré dans Shine a Light que toute forme d'atmosphère toxique et masculine, c'est comme c'est malheureusement parfois le cas dans le football, ne contribue pas à ce que les personnes de la communauté gay se sentent les bienvenues. Il faut rappeler que la LGBTQI-phobie n'est pas exclusive au football. 77% des Français perçoivent le milieu sportif professionnel comme homophobe et 46% des Français ont déjà été témoins d'un comportement homophobe ou transphobe dans le sport. Justin Fashanu a payé de sa vie d'être le premier. Jack Daniels, Jones, Josh, Cavallo, Borja Iglesias, Olivier Rouillet continuent d'avancer, mais la Coupe du Monde avec son Pride Match Égypte-Iran montre que le combat est encore loin d'être fini. La Shipe n'est pas un slogan, c'est un acte même quand personne ne regarde. Et je voulais terminer en disant que personnellement je ne suis pas concernée, donc je me considère plus comme une alliée. Et par rapport à ce sujet-là, il y a eu un article sur le site de la FIFA Pro en juin 2022 qui s'appelle « Hello Shipe, nous avons tous un rôle à jouer dans le football » qui était dans le cadre du Pride Month. qui commence comme ceci, je cite, « Nous devons réfléchir au rôle que nous pouvons jouer en tant qu'individus pour que le football devienne le jeu de tous, celui des joueurs, des supporters, de celles et ceux qui travaillent en coulisses. Le concept d'Allyship ou d'entraide nous donne la clé pour y parvenir. » Voilà, c'était Bienvenue sur la touche, la chronique sport qui questionne ce que le monde fait au sport et ce que le sport dit du monde.
Merci Marilyn qui nous a rappelé que Justin Fashanu a payé de sa vie pour être le premier et que le combat continue avec Jake Daniels, Borja Iglesias ou encore Olivier Rouillet. Autre point important que Marilyn souhaitait rappeler, la position d'allié. Comme l'explique la FIFPro, être allié n'est pas juste porter un maillot arc-en-ciel quand tout le monde regarde, c'est agir quand personne ne voit, c'est un choix quotidien, constant et souvent challengeant. La discussion continuera ce dimanche à 19h sur Syllab dans une émission Ambiance Culture spéciale Coupe du Monde et Pride. Quant à toi, Marilyn, on te retrouve peut-être l'année prochaine pour une chronique dans 6 heures avant minuit. Merci à toi.
Si, la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h sur Syllab.
La radio sauvage.